France Culture.
Le journal est signé Julie Paco. Bonsoir Julie.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Israël doit finir le boulot à la tribune de l'ONU. Benjamin Netanyahou n'a pas eu de mots assez durs pour condamner le Hamas et les pays ayant reconnu l'État de la Palestine. Le Premier ministre israélien a également rejeté toute accusation de génocide. Décryptage à suivre. Elles étaient jugées pour s'être rendues en Syrie rejoindre le groupe terroriste État islamique. Trois revenantes condamnées ce soir à des peines de 10 à 13 ans de prison. Nous irons à la cour d'assises spéciale de Paris retrouver Florence Turme avant d'aller à Amiens où les agriculteurs ont une nouvelle fois fait entendre leur colère contre l'accord de libre-échange conclu entre l'Union européenne et le Mercosur. Enfin, à peine redémarré et déjà arrêté, les trains de nuit Paris-Berlin et Paris-Vienne bientôt supprimés, pas assez rentables pour les compagnies ferroviaires. Un bien triste message pour certains usagers. Sous les applaudissements de ses partisans et les huées de plusieurs délégations qui ont quitté la salle, Benjamin Netanyahou a donc pris la parole à la tribune des Nations Unies cet après-midi, à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU, dans une ambiance très tendue et face à plusieurs rangées de fauteuils vides. Un Premier ministre israélien, visé depuis fin 2024 par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, il a promis de finir le boulot et s'en est pris dans son discours aux dirigeants des pays ayant reconnu cette semaine l'État palestinien, à l'instar de la France. Bonsoir Thibault Lefèvre.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Un discours donc d'une quarantaine de minutes qui a commencé dans une atmosphère houleuse, Thibault.
Oui, arrivée chaotique de Benjamin Netanyahou avec juste avant sa prise de parole des dizaines de délégués qui sont sortis de la salle et ont sifflé le Premier ministre.
Please, order in hall.
Et puis sans surprise, après un exposé d'une vingtaine de minutes sur les victoires récentes israéliennes et les objectifs de la guerre à Gaza, le Premier ministre israélien a sonné la charge contre les pays qui ont reconnu l'État de Palestine en début de semaine. En première ligne, évidemment, la France, qu'il n'a jamais clairement citée.
Beaucoup de dirigeants ont cédé. Ils ont cédé sous la pression de médias orientés, d'organisations islamistes radicales et de foules d'antisémites. Pendant que nous combattons des terroristes, vous vous battez contre nous et vous menez une bataille juridique contre nous.
What a joke, quelle blague, c'est avec ces mots que Benjamin Netanyahou a conclu cette diatribe particulièrement offensive.
Benjamin Netanyahou qui s'est également adressé aux 20 otages toujours détenus dans la bande de Gaza. Des haut-parleurs ont en effet été déployés à la lisière de l'enclave palestinienne, Thibault.
Oui, dispositif inédit, surprenant. Pendant 40 minutes, ces murs d'enceinte montés sur des véhicules militaires ont craché en direction de Gaza, le discours du Premier ministre.
J'ai installé autour de Gaza d'imposants haut-parleurs connectés à ce micro dans l'espoir que nos otages puissent entendre ce message. Nous ne vous avons pas oublié, nous ne faiblirons pas et nous ne nous reposerons pas tant qu'on ne vous aura pas tous ramenés à la maison.
Immédiatement, les familles d'otages ont réagi dénonçant une supercherie et puis le bureau du Premier ministre a annoncé dans un communiqué avoir piraté des téléphones à Gaza pour imposer son discours aux Palestiniens de l'enclave. Plusieurs contacts sur place m'ont assuré n'avoir rien vu ni entendu.
Thibault Lefèvre à Jérusalem pour France Culture. Et malgré ce discours donc très offensif du Premier ministre israélien, eh bien Donald Trump a affirmé qu'il était proche d'un accord pour mettre fin au conflit à Gaza. Le président américain a présenté cette semaine un nouveau plan de paix à Benjamin Netanyahou et à plusieurs dirigeants des pays arabes, après avoir officiellement mis en garde Israël hier contre toute annexion de la Cisjordanie. Car face à cette colonisation israélienne en Cisjordanie, eh bien l'ONU a publié aujourd'hui une liste de 158 entreprises liées au développement des colonies israéliennes et jugées illégales donc par le droit international. Une liste à laquelle s'ajoutent 68 nouvelles entreprises par rapport à la précédente liste de 2023. Et si le constructeur ferroviaire français Alstom y a été retiré, Booking.com ou encore TripAdvisor continuent d'y figurer. Cette liste vise à la responsabilité qu'ont les entreprises travaillant dans des contextes de conflit de veiller à ce que leurs activités ne contribuent pas à des violations des droits humains, explique le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme. On va aux États-Unis où le président américain Donald Trump a annoncé de nouveaux droits de douane pour les médicaments. À partir du 1er octobre prochain, nous appliquerons une taxe de 100% sur tout produit pharmaceutique de marque ou breveté, sauf si une entreprise construit son usine pharmaceutique en Amérique, a écrit le milliardaire républicain sur son réseau social Truth Social, une nouvelle surtaxe douanière donc, qui ne toucherait pas les médicaments européens. L'accord commercial noué cet été entre l'Union européenne et les États-Unis prévoit qu'il ne soit pas taxé au-delà de 15%, précise aujourd'hui la Commission européenne. Les Européens qui sont davantage préoccupés aujourd'hui par les incursions de drones dans les espaces aériens de leurs pays membres, Danemark, Pologne ou encore Roumanie. Les survols de drones russes se sont multipliés ces dernières semaines quand l'Estonie a vu vendredi dernier plusieurs avions de combat russes survoler son ciel. 10 pays européens réclament donc la construction d'un mur anti-drone sur la frontière orientale de l'Union européenne. Bonsoir Fabien Cazot.
Bonsoir.
Un mur réclamé en premier lieu par les pays baltes et qui a donc fait l'objet d'une réunion aujourd'hui en Finlande.
Oui, avec un certain sentiment d'urgence qu'on sent monter, en particulier dans ces pays qui font face directement à la Russie, ce flanc oriental qui s'étale sur plusieurs milliers de kilomètres du nord de la Finlande au sud de la mer Noire. Ce chantier de mur anti-drone s'annonce donc colossal, mais selon le commissaire européen à la défense, Andrius Kubilius, lituanien, les Européens n'ont plus le choix.
On fait face à des défis très clairs. La Russie teste l'Europe et l'OTAN. Notre réponse doit être ferme, unie et immédiate. Nous sommes d'accord sur les principales priorités de notre mur anti-drone, permettre la détection avancée et pouvoir intercepter les drones.
Comment faire en s'inspirant des Ukrainiens qui abattent quotidiennement des dizaines et des dizaines de drones russes? Le ministre ukrainien de la Défense a d'ailleurs participé à distance à la réunion d'aujourd'hui. Son homologue finlandais, Antti Häkkinen, résume de sa voix grave l'état d'esprit général.
Nous avons besoin de résultats rapides. Il faudra travailler en étroite collaboration avec l'OTAN. Les États membres doivent rapidement traduire leurs engagements budgétaires en capacités opérationnelles. Maintenant, on a besoin de concret.
Du concret avec l'OTAN qui a déjà participé à la défense du ciel polonais il y a 2 semaines.
Fabien Cazot, correspondant de France Culture à Bruxelles. Et cette réunion intervient quelques heures donc après une nouvelle alerte aux drones au Danemark. L'espace aérien au nord du pays a dû être fermé plusieurs heures hier soir. Les incidents de ce type se multiplient depuis lundi. Des scènes de désolation dans la capitale malgache après des fortes tensions à Antananarivo. Hier, la manifestation populaire à Madagascar pour réclamer l'accès à l'eau et à l'électricité a été fortement réprimée par les forces de l'ordre. Au moins 5 personnes ont été tuées par balles, plus de 80 personnes blessées et des scènes de pillage qui sont toujours en cours aujourd'hui. Alors au réveil, ce matin, certains quartiers portaient les stigmates d'une nuit des plus agitées. Récit de notre correspondante à Madagascar, Sarah Tétou.
Il est 11h. Dans ce centre commercial au cœur d'Antananarivo, les alarmes antivols résonnent encore. Aucune vitrine ni grillage métallique n'a résisté à l'assaut des pilleurs.
J'ai plus de mots, j'ai même plus de larmes.
Vounzi Rambulazaf, la responsable du centre commercial, est anéantie.
On subit également tout ce qui est problème d'électricité, problème d'eau. On compatit vraiment à cette lutte, mais on ne comprend pas pourquoi. Pourquoi nous ? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Jusqu'à, je dirais, 8h30, 9h, il y avait encore des gens qui étaient en train de piller encore. On n'avait pas eu de force de l'ordre jusqu'au petit matin. Donc, le centre commercial appartenait aux bandits.
Sur place, beaucoup de bénévoles des quartiers voisins se sont mobilisés volontairement pour aider à nettoyer. Comme ce jeune homme, venu prêter main forte à la librairie de son enfance. Issu du mouvement Génération Z, à l'origine de la manifestation d'hier, il déplore les actes de vandalisme, tout comme la désinformation qui est en train de se répandre, dit-il.
Depuis cette nuit, on nous accuse d'être les auteurs qui ont cassé les magasins. Mais ce n'est pas vrai. On est en train de nous traquer. Nos comptes sont infiltrés.
Une opération spéciale de rétablissement de l'ordre public a été déclenchée, autorisant les forces armées à faire usage de leurs armes en cas de besoin. Dans un message écrit sur son compte Facebook, le président de la République, dont on ignore s'il est sur l'île ou non, a condamné les actes de vandalisme et appelle tous les Malagas au calme. Les mouvements de protestation sont en train de se propager en région. 5 villes du pays, dont la capitale, ont été placées sous couvre-feu ce soir.
18h09 sur France Culture et le verdict est tombé au procès des revenantes à la cour d'assises spéciale de Paris où 3 femmes sont jugées depuis 10 jours pour association de malfaiteurs terroristes pour être parties en Syrie avec leurs enfants et leurs compagnons qui avaient rejoint les rangs du groupe État islamique. Parmi elles, Jennifer Klein, nièce des frères Klein, les voix des revendications des attentats du 13 novembre 2015. Hier, l'avocat général a donc requis des peines allant de 10 à 15 ans de réclusion criminelle. Bonsoir Florence Turme.
Bonsoir.
Et ce soir, la Cour vient de les condamner à des peines allant de 10 à 13 ans de prison, Florence.
Oui, 5 heures de délibéré. La Cour a livré son verdict. Les 3 femmes reconnues coupables d'association de malfaiteurs terroristes, elles n'ont pas été victimes de la terreur, mais agents de la terreur, avait lancé hier l'avocat général. La Cour a légèrement infléchi les peines requises. 13 ans de réclusion criminelle prononcée à l'encontre de Christine Alain, 67 ans, la belle-mère des 2 autres accusés, avec une peine de sûreté des 2 tiers et un suivi socio-judiciaire durant 8 ans pour cette ancienne éducatrice convertie à un islam radical sur la trace de ses 2 fils désormais détenus en Irak et en Syrie. 11 ans de réclusion pour Jennifer Klein. Tout au long du procès, la jeune femme, détenue depuis 6 ans, a assuré avoir rompu avec le djihadisme qui a bercé sa jeunesse au milieu d'une famille entièrement radicalisée. Une décision équilibrée et mesurée, estime ce soir son avocat. Ce matin, Jennifer Klein avait demandé pardon à ses enfants. J'ai échoué dans mon rôle de mère, avec aussi un message à toutes les victimes directes et indirectes des djihadistes. Je ne leur demande pas de me pardonner, c'est impardonnable, mais je leur présente mes plus profondes et sincères excuses. Enfin, Magalan Duarte, elle était la seule à comparaître libre, sortie de prison depuis 2 ans, mais elle risque d'y retourner car la Cour a prononcé 10 ans de prison, ainsi qu'un mandat de dépôt avec effet différé. Elle sera convoquée prochainement par la justice à moins de faire appel. Magalan Duarte, qui a reconnu, elle aussi, avoir failli à son rôle de mère, je porterai cette culpabilité toute ma vie.
Florence Turme, en direct de la Cour d'assises spéciale de Paris pour France Culture. Moins d'eau pour l'irrigation agricole dans le Marais Poitevin, c'est une décision de justice aujourd'hui. Les juges de la Cour administrative d'appel de Bordeaux estiment qu'il va falloir réduire les prélèvements. La justice confirme que les niveaux accordés par l'État en 2021 pour une durée de 5 ans ont, je cite, un caractère excessif qui ne permet pas de garantir une gestion équilibrée et durable de l'eau. De quoi donc remettre en cause un vaste projet de construction de méga-bassines prévues dans le Marais Poitevin, des retenues d'eau agricoles très contestées par les anti-bassines. Pas d'importants blocages, mais des actions spectaculaires. Les agriculteurs se sont mobilisés pour la 2e journée consécutive aujourd'hui pour dénoncer, entre autres, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Une centaine d'actions ont été recensées dans toute la France, d'après le vice-président de la FNSEA. Une quinzaine de tracteurs se sont ainsi installés devant le château de Versailles dès ce matin. Quant à Amiens, les agriculteurs se sont retrouvés dans un supermarché pour une opération de contrôle à l'origine des produits. Des producteurs de betteraves sont venus partager leurs inquiétudes pour l'avenir de la filière, Jeanne Serrin.
Distribution de t-shirts floqués, douane agricole sur le parking.
Arnaud, quelle taille ?
Fabien Hameau en attrape un. Le président de la Confédération Générale des Planteurs de Betteraves dans la Somme prend le micro.
Le Mercosur, c'est 190 000 tonnes de sucre et 8,2 millions d'hectolitres de bioéthanol à droit de douane réduit, voire nul. Cela représente la production de 50 000 hectares de betteraves. Pour rappel, dans la Somme, c'est 45 000 hectares. C'est comme si on rayait de la carte toutes les surfaces betteravières de la Somme.
Par groupe de 3-4 et munis d'un caddie, les agriculteurs partent ensuite à l'assaut des rayons. Un petit groupe de betteraviers se dirige vers le rayon du sucre. Ce jeune agriculteur souhaite garder l'anonymat, mais lui aussi cultive de la betterave.
On va être à 500-600 euros de la tonne de l'engrais. Il était à 200 euros l'année dernière. J'ai beau avoir un bon rendement, si mes charges elles font x3, bah derrière, ça fait 6 euros.
Dans l'allée centrale, c'est l'interdiction d'un insecticide, l'acétamipride, qui occupe les débats. Une agricultrice interpelle le député de la Somme, François Ruffin, venu échanger avec eux.
Moi, j'ai vu un producteur de betteraves de l'Oise. Il me disait aujourd'hui, il est à 50 tonnes de betteraves parce qu'il a eu la jaunisse. On met la filière à terre. Et ça, il n'y a pas de logique.
Le Conseil constitutionnel a tranché, rappelle l'élu, qui partage en revanche la colère des agriculteurs contre le Mercosur.
Les fermes-usines du Brésil, elles sont 1000 fois plus grandes que les fermes-usines de Picardie, qui ne sont pas déjà les plus petites du pays. C'est mettre les éleveurs dans une concurrence qui est complètement déloyale.
François Ruffin est à l'initiative d'une proposition de résolution qui appelle l'État à saisir la Cour de justice de l'Union européenne sur la non-conformité du Mercosur avec les textes européens. Une résolution signée par plus de 100 députés de tous bords politiques.
Un reportage à Amiens de Jeanne Serrin pour France Culture et le président de la FNSEA réclame un rendez-vous avec le Premier ministre. Le Premier ministre qui dévoilera son nouveau gouvernement avant le 1er octobre, c'est ce qu'affirme Sébastien Lecornu dans un entretien ce soir à nos confrères du Parisien. Le Premier ministre souhaite nommer son gouvernement avant le début des travaux parlementaires et ses ministres devront endosser le projet de budget, prévient Sébastien Lecornu, semblant donc exclure toute volonté de débauchage de personnalités issues du Parti socialiste. Le symbole n'aurait été que de courte durée. Les trains de nuit Paris-Vienne et Paris-Berlin, relancés en grande pompe en 2021 et 2023 et érigés comme un symbole de la renaissance des trains de nuit internationaux, devraient s'arrêter d'ici au 1er janvier prochain. L'État menace de mettre fin à ses subventions à la SNCF qui les gère avec ses homologues autrichiens et allemands. Bonsoir, merci Anesic.
Bonsoir.
Ces compagnies ferroviaires estiment que ces trains ne sont pas assez rentables. Or, ces compagnies n'ont pas tenu leur engagement de rendre les liaisons quotidiennes et du coup économiquement viables.
L'État a accepté effectivement de relancer ces trains de nuit il y a quelques années, mais à condition qu'ils deviennent rentables et assurent une circulation quotidienne. Or, ils ne circulent actuellement que 3 fois par semaine. L'an dernier, ils ont transporté 66 000 voyageurs. C'est un bon taux de remplissage, mais qui aurait pu être meilleur si la SNCF avait tenu ses engagements, selon Pascal Dauboin du collectif Oui aux trains de nuit.
On espérait effectivement que c'était un peu l'engagement qu'avaient pris les opérateurs OBB autrichiens et SNCF côté français, Deutsche Bahn côté allemand, c'est de transformer ces lignes en lignes quotidiennes. Et on l'aurait pu espérer à ce titre beaucoup plus de passagers encore. On pouvait espérer mieux lorsque le train quotidien, puisque vous n'avez plus de questions à vous poser, tous les jours vous aviez un train qui part de Paris pour aller à Berlin et pour aller vers Vienne. Donc c'est vers ça qu'on tendait, c'était une vraie alternative à l'avion. Et malheureusement, on fait marche arrière puisque ces deux lignes sont menacées.
La SNCF, qui le faisait au début, ne vend plus du tout les billets sur sa plateforme, ce qui limite également les ventes, alerte le collectif.
En plus de ça, il n'y a même pas d'information sur le fait que la ligne existe entre Paris et Berlin de nuit. C'est quand même, pour une compagnie qui opère le train en France, quelque chose de quand même assez surprenant, quoi.
Cela oblige les voyageurs français à réserver leurs billets sur un site autrichien. Contactez la SNCF botte en touche et nous renvoie vers le ministère des Transports. Celui-ci nous a laissé aussi sans réponse. Une manifestation similaire à celle qui est organisée à Paris doit avoir lieu en ce moment même à Berlin, Julie.
Merci Anesic. Une pyjama party est en effet organisée ce soir devant la gare de l'Est par le collectif Oui aux trains de nuit. Et pour succéder à Jean-Pierre Farandou à la tête de la SNCF, Emmanuel Macron propose aujourd'hui de nommer Jean Castex à la tête de la RATP depuis près de 3 ans. La nomination de l'ancien Premier ministre comme PDG de l'entreprise ferroviaire devra être validée par les commissions parlementaires compétentes. Le directeur artistique de la Folle Journée à Nantes, René Martin, mis en retrait par l'organisateur du festival musical. Une 20aine de salariés l'accusent dans la presse de dérives brutales et de sexisme. À cela s'ajouterait une gestion financière opaque de ces entreprises. À 75 ans, René Martin est à la tête de 14 festivals en France. On y revient dans notre journal de 19h. On compte désormais plus de 40 millions de joueurs de jeux vidéo en France. Femmes et hommes sont quasi à égalité, d'après une étude du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs publiée cette semaine. Un public adulte, donc, et qui peut se consacrer à un type de jeu bien particulier réservé aux majeurs, les jeux d'horreur. Et aujourd'hui sort justement le jeu vidéo Silent Hill F, dernier opus Pierre Robert d'une longue saga qui a débuté dans les années 90.
Tout comme il existe des films de genre, il existe des jeux vidéo de genre et plus particulièrement d'horreur. C'est le cas de la saga Silent Hill de l'éditeur japonais Konami, née il y a un quart de siècle, explique le docteur en sciences de l'art et spécialiste des jeux d'horreur, Guillaume Béchelier.
Silent Hill, c'est vraiment une licence culte dans le sens où elle a forgé une approche spécifique du jeu vidéo. Ce jeu a vraiment marqué les esprits parce qu'il tentait des choses qui n'avaient pas forcément été faites avant, c'est-à-dire un jeu d'horreur, certes, mais un jeu d'horreur qui joue beaucoup sur ce qu'on a appelé par la suite de l'horreur psychologique.
Depuis les années 90, les jeux vidéo d'horreur puisent une partie de leurs idées de mise en scène ou de thématiques dans le cinéma. Silent Hill, par exemple, fait de nombreuses références au film L'échelle de Jacob d'Adrian Lyne. Mais les jeux vidéo d'horreur permettent d'offrir aux amateurs du genre une nouvelle possibilité qui explique leur succès, l'interactivité, mais aussi la possibilité de placer le joueur dans des situations intenables. Guillaume Béchelier.
Si on prend un jeu comme Mario, voilà, on a des plateformes, il faut sauter dessus. Entre les plateformes, il y a du vide, on risque de tomber. tomber. Donc on a une contrainte. L'intérêt du jeu vidéo d'horreur, c'est qu'il va prendre ce qui fait les règles habituelles d'un jeu et il va pousser tous les curseurs au maximum. On va faire en sorte que les personnages soient fragiles, on donne peu d'équipement, très peu de ressources pour survivre. Et tous ces éléments-là, qui seraient normalement des éléments qu'on va donner dans un jeu qui permettrait d'avoir un comportement peut-être plus héroïque, comme sur des jeux de guerre, des jeux d'aventure, le fait qu'on nous enlève tout ça, ça va générer de la peur.
Au-delà des grandes franchises commerciales, le jeu vidéo d'horreur est resté un genre de niche, mais la scène indépendante, tout comme le cinéma de genre, est riche de propositions. En 2024, sur la plateforme de jeu Steam, on dénombrait plus de 700 nouveaux titres d'horreur pour jouer à se faire peur.
Pierre Ropper, un mot de météo avec un radoucissement attendu demain et le retour d'éclaircies demain matin, particulièrement sur le quart sud-est et les Hauts-de-France. 4 à 9 degrés sont prévus au petit matin dans les terres, 8 à 13 degrés sur le littoral. C'est la fin de ce journal préparé avec Jean-François Braun. Noé Chaban à la technique.